Et c'est une première dans l'histoire, je vous le disais dans le journal, jamais jusque-là un président américain n'avait pénétré en territoire nord-coréen. Donald Trump l'a fait donc ce matin, alors ça n'a duré que quelques instants, à la frontière démilitarisée entre les deux Corées et aux côtés de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. Mais le symbole est fort, un an après la première rencontre entre les deux hommes et surtout 4 mois après l'échec d'un deuxième sommet qui s'était tenu à Hanoï au Vietnam. On va décrypter cette séquence et ce qui a été dit avec notre invité Barthélémy Courmont. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université catholique de Lille, directeur de recherche à l'IRIS, hein, qui est l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Alors, il n'y a pas eu vraiment de discussion en tête-à-tête entre Donald Trump et Kim Jong-un. En quoi cette troisième rencontre est-elle si importante?
Alors d'abord, il faut rappeler que c'est une rencontre qui a été montée un petit peu en dernière minute, puisque Donald Trump, à l'occasion de son déplacement en Corée du Sud, suite à sa participation au sommet du G20 d'Osaka, a tout simplement proposé à Kim Jong-un de le rencontrer, de lui dire bonjour, c'est les termes qu'il a utilisés dans un tweet, ce à quoi a répondu probablement le dirigeant nord-coréen. Donc il n'était pas prévu, évidemment, d'aborder des questions de fond et puis encore moins, évidemment, d'avancer dans le dialogue entre les deux pays. C'était plus de montrer que le dialogue est restauré et que, en dépit des problèmes que l'on a pu rencontrer au cours des derniers mois, notamment cet échec du sommet de Hanoï que vous avez évoqué, mais aussi la reprise d'essais balistiques nord-coréens au cours des 2 derniers mois, eh bien, les deux dirigeants restent disposés à aller dans la bonne direction et dans la direction du dialogue. Donc, c'est ce symbole que l'on doit retenir.
Alors, justement, la reprise du dialogue, qu'est-ce qui laisse penser que ça va permettre la reprise des négociations sur le gros sujet, la dénucléarisation de la péninsule coréenne?
Alors, il y a deux choses, moi, qui m'ont interpellé personnellement dans cette rencontre. D'abord, c'est l'absence d'un certain John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, dont on sait l'hostilité à l'égard de la Corée du Nord et de tout accord avec la Corée du Nord. Le fait qu'il ne soit pas présent montre la volonté du président américain de ne pas froisser d'une certaine manière son interlocuteur nord-coréen. Et puis, d'autre part, et peut-être de manière plus importante encore, le président américain n'a jamais précisément, ou quasiment jamais, mentionné le principe de dénucléarisation à l'occasion des différentes conférences de presse qui ont soit annoncé, soit fait un petit bilan de cette rencontre. Et donc, on a un petit peu changé le ton du côté de Washington. On sait que la dénucléarisation, qui est au cœur évidemment de cette relation, avait posé problème à l'occasion des préparatifs du sommet de Hanoï. Et on sait que c'est un point sur lequel les deux dirigeants ne sont pas à l'heure actuelle capables de s'entendre. Côté américain, on a donc décidé de laisser de côté cette question.
Mais ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de négociation possible entre les deux pays, parce que c'est quand même la question clé, la
Ah bah si,
dénucléarisation.
attendez, parce que tout dépend de ce que l'on entend par négociation. Si on se focalise sur la dénucléarisation, non, les négociations sont impossibles. Elles le seront, je dirais, ad vitam aeternam. En revanche, si on prend l'ensemble des autres sujets de négociation, et ils sont innombrables, à commencer par la question des sanctions économique et commerciale dont fait l'objet la Corée du Nord. Sur ce point, on peut avancer, à condition toutefois de ne pas constamment y associer la question de la dénucléarisation. C'est ce que Pyongyang appelle de ses voeux, c'est ce que Donald Trump avait semblé comprendre à l'occasion de la rencontre de Singapour il y a un peu plus d'un an. On avait vu entre-temps que les États-Unis étaient d'une certaine manière revenus à la charge avec la question nucléaire.
Oui, parce que les États-Unis demandent.
On a le sentiment que le président ne veut plus.
Ils demandent la dénucléarisation de la Corée du Nord et la Corée du Nord demande au préalable une levée de sanctions. C'est en ça que c'est un dialogue de sourds jusque-là.
Et puis c'est un ordre, si vous voulez. C'est-à-dire que côté américain, on estime qu'il faut d'abord dénucléariser et ensuite les sanctions tomberont.
Et sur
côté
ce point-là,
nord-coréen,
sur ce
le
point-là,
message est inverse.
vous pensez que les autorités des deux pays peuvent lâcher du lest?
C'est clairement ce que Donald Trump a laissé entendre ce matin, quand il a énoncé notamment qu'on pourrait proposer à Washington une levée partielle de certaines sanctions et qu'on le proposerait au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est exactement ce que Pyongyang souhaite.
Donc qui est le grand gagnant de cette séquence?
C'est évidemment Kim Jong-un. Alors, Donald Trump, pour d'autres raisons, c'est un gagnant, puisque son prestige, évidemment, est gonflé par cette rencontre. On sait qu'il attend une victoire diplomatique pour pouvoir la présenter dans son bilan en vue de sa réélection. Donc, c'est quelque chose sur lequel il va évidemment capitaliser. Mais le grand vainqueur sur le fond, c'est évidemment Kim Jong-un. D'abord, discuter une nouvelle fois, une troisième fois en un an, d'égal à égal avec le président des États-Unis, réussir à faire franchir cette zone démilitarisée au président américain, donc ce symbole très fort aussi pour les Nord-Coréens, et puis enfin, je l'ai dit, la question des sanctions qui revient d'une certaine manière dans l'ordre des priorités de ce dialogue entre les deux pays, ce qui n'était plus le cas depuis quelques mois.
Et ainsi, Kim Jong-un fait éloigner la question centrale de la dénucléarisation. C'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Encore une fois, je me permets d'insister là-dessus. La dénucléarisation n'est pas la question centrale pour tout le monde. Elle l'était pour les Américains au début de la négociation. Elle ne l'a jamais été pour la Corée du Nord.
Elle l'est pour la communauté internationale également.
Elle l'est pour les Nations Unies, mais on a vu au cours des derniers mois également un certain nombre de puissances, à commencer par la Chine, mais aussi la Corée du Sud, modifier leur discours et appeler à la différenciation de ces deux dossiers. Donc d'un côté, rester ferme évidemment sur la question du nucléaire nord-coréen, mais de l'autre, se montrer beaucoup plus ouvert sur la question d'une reprise de dialogue apaisée, d'une pacification, pourquoi pas. Et puis cela passe évidemment par la levée des sanctions.
Ce matin, Donald Trump a dit qu'il avait invité Kim Jong-un aux États-Unis. Est-ce que voilà, c'est juste un symbole ou est-ce qu'effectivement on peut imaginer que le dirigeant nord-coréen vienne en Amérique ?
Je pense sincèrement que Kim Jong-un pourra venir à la Maison-Blanche à l'invitation de Donald Trump. Il va évidemment falloir désormais en étudier les conditions et puis surtout là, réfléchir à quelque chose de plus concret. Parce que si c'est simplement pour avoir un symbole de plus, ça risque au bout d'un moment de lasser un petit peu les négociateurs de part et d'autre. Donc si effectivement on parvient à se mettre d'accord de part et d'autre sur les conditions d'un réel accord avec des éléments concrets, donc effectivement une levée partielle de sanctions, un vrai gel des activités nucléaires qui soit prouvé aussi par la Corée du Nord, je ne parle pas ici de dénucléarisation mais d'arrêt des activités nucléaires, et puis un message qui soit apaisé de part et d'autre, eh bien oui, on peut tout à fait envisager que cela soit rendu officiel à la Maison-Blanche. Là encore, Kim Jong-un en rêve. Tous les dirigeants nord-coréens, c'est son grand-père et son père qui l'ont précédé, ont rêvé avant lui des honneurs de la Maison-Blanche et d'être reçus comme un hôte de choix par le président américain. Et puis côté américain, on sait que Donald Trump, contrairement à ses prédécesseurs, va se montrer peut-être un petit peu moins regardant sur des problèmes de fond ou centraux, comme vous l'avez dit à juste titre, si on réfère aux éléments de la communauté internationale, à savoir les activités proliférantes de la Corée du Nord qui, bien évidemment, devraient rendre impossible ce type de rencontre. Mais avec Donald Trump, les choses se font différemment. Donc, personnellement, oui, je pense que cette rencontre pourra avoir lieu. Elle pourrait avoir lieu peut-être dans l'année qui vient. Hein, et je pense que la main tendue de Donald Trump va donner suite à quelque chose.
Eh bien, merci Barthélémy Couron, maître de conférence à l'Université catholique de Lille, directeur de recherche à l'IRIS.